radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 3h.
Et tous ceux qui sont en train de bosser ou en pleine insomnie, la rediff de Décibel, ici, c'est parti.
Ici, chaque soir,
toute l'actu musicale est dans Décibel.
Émilie Mazoyer.
Décibel, deuxième partie. On est ensemble jusqu'à 21h. On va se régaler. Bah oui, évidemment. Enfin, en tout cas, je suis là pour ça. Normalement, ça va vous plaire, le programme que je vous ai concocté avec amour. Le festival idéal, ce soir, ce sont des concerts à Versailles. Vanessa Paradis à l'Opéra Royal de Versailles, tout comme Mika, et puis Jean-Michel Jarre aussi. Une version de Oxygène, bah voilà, en live, avec le public qui réagit. C'est évidemment instrumental, hein, il ne se met pas à chanter, Jean-Michel Jarre. Mais vous allez voir, on sent bien que c'est du live. C'est assez agréable. Ce sera tout à l'heure à 20h45, le festival idéal. Avant ça, de Michael Jackson à Juliette Armanet ou Julien Doré, ça on saura tout à l'heure, c'est les résultats du duel. La nouvelle chanson de Benjamin Biolay, la nouvelle chanson de Zaz, et puis un top 5 autour des poupées. Je pense qu'on est pas mal. Merci de nous avoir choisis. Il y a des journées mondiales un petit peu pour tout et n'importe quoi, vous le savez, c'est mon site préféré. Enfin, j'ai deux sites préférés. anniversairecélébrité.com et journeemondiale.com. Et sur journeemondiale.com, ce matin, je me suis rendu compte que c'était la journée mondiale de la poupée. Alors, ce qui est très mignon pour les enfants devient très très vite tout petit peu angoissant quand il s'agit d'adultes. Hein. Vous savez qu'ils vous montrent leur collection de poupées. On est là, on fait oui, d'accord, bien sûr, tu as une collection de poupées. Tu en as 150 et je n'ai pas le droit de les toucher car elles sont de collection. Ok, très bien. Après tout, chacun son truc. En tout cas, en ce qui concerne les chansons, les artistes, les chanteurs, les chanteuses, les poupées sont une source d'inspiration assez inépuisable, je dois dire. Je vous propose donc de commencer le top 5 des chansons qui parlent de poupées avec un classique de 1966, une chanson qui à l'époque avait beaucoup impressionné les anglo-saxons, même Jimi Hendrix avait repris le riff lors d'une répétition, mais comme avec Jimi Hendrix on enregistrait tout, ça a fini par arriver jusqu'à nous et on l'a entendu jouer la mélodie de La poupée qui fait non. Chanson de Michel Polnareff, enregistrée à Londres, La poupée qui fait non. kiffé, non, 1966. C'est un vrai grand succès pour Michel Polnareff, cette chanson. D'ailleurs, il l'a enregistrée en allemand, Meine Puppe sagt non, en espagnol, Muñeca que hace no, et en italien, Una bambolina che fa no no no. Voilà, dans toutes les langues européennes. Moi, j'adore les années 60 pour ça. Il y a plein de versions absolument merveilleuses. Et selon à qui vous vous adressez, certains disent « Oui, bien sûr, c'est vrai !» D'autres disent « Mais non, n'importe quoi, mytho !» Il paraît que la chanson que vous venez d'entendre, là, à la guitare, c'est Jimmy Page, et à la basse, c'est John Paul Jones, qui ensuite allait devenir Led Zeppelin. Puisqu'en fait, il enregistrait à Londres avec des musiciens de studio, des musiciens de session, Michel Polnareff. C'est évidemment possible que ce soit eux, mais c'est possible que ce soit pas eux aussi. Voilà, donc moi j'ai pas la preuve, j'ai interviewé aucun des trois, donc j'ai pas pu poser la question. Mais voilà, si quelqu'un a une info plus béton que ça, parce que selon les bouquins dans lesquels je lis cette histoire, c'est vrai ou c'est pas vrai que Jimmy Page et John Paul Jones ont joué sur la poupée qui fait non de Michel Polnareff. En tout cas, ça nous faisait une bonne entrée en matière pour notre top 5 spécial chanson poupée. Beaucoup plus proche de nous que 1966, il y a le premier album d'Oshi, Il suffit d'y croire. On est en 2018 et elle chante la poupée russe.
Alors ce soir, ma poupée russe, ce refrain est pour toi. Dans ton histoire, il y a des plus. Edith a trouvé son Marcel et jamais elle ne le lâchera. Un mythe, Edith, qu'est-ce qu'elle est belle. Ya, l'oubliotie, bien.
Chanson grâce à laquelle Oshi parle des origines slaves, russes, de sa grand-mère, Edith. Voilà, poupée russe. Il y avait aussi une autre chanson de poupée qui a eu son petit succès. Vous vous souvenez de Thierry Hazard, pour aller danser le jerk. En 1990, évidemment, c'est l'artiste qui explose et son premier album pop musique qui explose tout autant. Et après le jerk, il avait sorti cette chanson qui s'appelait Poupée psychédélique. Et bah, psychédélique, pas que le nom d'ailleurs, hein. Le clip, la pochette, c'était Austin Powers en roue libre, Thierry Hazard à l'époque, mais c'était drôlement chouette.
C'est ma poupée, mon joujou préféré, son en matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Spécimen rare, chef d'œuvre unique, mode à dépôt du caisse authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché.
Thierry Hazard, qui a complètement quitté le monde de la musique. Il y a un journaliste du site Pure Charts qui est parti vraiment à sa recherche, comme une enquête. Où est passé Thierry Hazard ? Alors, il a essayé de contacter des gens à la SACEM, des anciennes personnes de sa maison de disques, de son équipe. Enfin voilà, il a vraiment tout cherché. Et finalement, il a fini par retrouver Thierry Hazard, qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas envie d'être retrouvé, en fait, mais qu'il allait très bien. Bisous, merci, bisous. Il va bien, Thierry Hazard, et merci de nous avoir fait kiffer au début des années 90 avec ce premier album qui était quand même assez dingue et très original pour l'époque. Alors on a eu la poupée qui fait non, la poupée russe c'était la grand-mère d'Oshi, la poupée psychédélique, bon bah clairement une amie de passage de Thierry Hazard, dans Il faut ranger ta poupée de Hugo Frey en 1966, même année donc que la chanson de Polnareff. Hugo Frey utilise la poupée comme métaphore de l'enfance, et quand il dit à sa fille il faut ranger ta poupée, ça veut dire qu'elle est en train de grandir et que ça le laisse bien mélancolique.
C'est l'été qui commence, ma belle, et quand tu vas partir, ma belle, il ne me restera pour me parler de toi. Y a que cette poupée dans le fond du grenier. Il ne me restera.
petit chiffon abandonné dans un coin du grenier comme métaphore de l'enfance perdue. Moi, je trouve ça bouleversant. C'est très beau. Hugo Frey, il faut ranger ta poupée. Allez, on termine notre top 5 des chansons poupées en évitant soigneusement celle de Serge Gainsbourg. Vous l'écouterez si vous voulez. Moi, je peux pas passer ça à la radio. Elle est vraiment crado. En revanche, Serge Gainsbourg a écrit et composé une chanson de poupée parfaitement respectable pour France Gall en 1965. Poupée de cire, poupée de son, chanson qui a valu à France Gall la victoire au Grand Prix Eurovision de la chanson cette année-là. Poupée de cire, poupée de son, donc France Gall, paroles et musique Gainsbourg et un peu Beethoven aussi.
Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire.
Poupée de cire, poupée de son, dernier titre
aux archives sur un smartphone ou sur un ordinateur, notamment aux jeunes générations. Et aussi un public plus international.
Ça a été compliqué de remettre la main sur toutes ces archives, sur ces 70 ans d'archives. Vous aviez tous les numéros.
74 ans, très exactement.
Encore mieux.
Alors, oui, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Je ne vais pas vous cacher qu'il manquait.
Ah oui, il y avait des numéros introuvables.
Il y avait des numéros introuvables. Et aujourd'hui, je tiens à le redire, hein, c'est qu'en fait, toutes ces archives ne sont pas trouvables partout, elles sont trouvables dans très très peu de lieux en France, dans très peu de bibliothèques. Il faut être parisien pour avoir cette chance-là. Et nous, notre lectorat n'est pas que parisien, et fort heureusement. Et donc, oui, c'était extrêmement compliqué. Et voilà, il a fallu un travail d'équipe monumental. Et on est une équipe de moins de 10 personnes qui travaillons d'arrache-pied depuis 5 ans pour justement développer nos titres. Et il a fallu aussi s'entourer d'un partenaire, évidemment.
Alors, on va en parler, mais juste une dernière question sur la manière dont vous avez dû dénicher certains numéros. Est-ce que vous avez dû en racheter à des particuliers qui avaient des numéros collecteurs,
alors,
du coup
je peux en citer 3 qu'on a dû racheter, oui.
Ouais, c'est vrai. Oui. Cher ?
Non. Fort heureusement.
Bon. Alors parlons justement de votre partenaire, puisque cette numérisation, elle a été rendue possible grâce à une filiale de Google Art et Culture. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez eu besoin d'eux? Vous n'auriez pas pu faire tout ce travail sans eux?
Alors non, numériser 75 000 pages, alors qu'on est, nous sommes une équipe de 8 personnes, dont 4 à mi-temps, c'était quand même concrètement.
Ça aurait pris du temps, oui.
C'est l'histoire d'une vie. Donc du coup, on n'avait pas ce temps-là devant nous. Après, le partenariat avec Google Art et Culture, qui n'est pas Google, hein, je tiens à le préciser, préciser parce que je vois certains commentaires qui pensent que ça y est, on est
vendu aux grands méchants.
Voilà, non, c'est pas du tout ça. En fait, Google Agriculture, c'est vraiment un laboratoire qui soutient 3000 institutions culturelles dans le monde, dans 80 pays. Et leur mission, c'est vraiment de préserver le patrimoine culturel mondial. Donc en fait, on était vraiment sur les mêmes objectifs. Et c'est vraiment le fruit d'une rencontre avec leurs équipes. Et donc, on a à la fois numérisé ces 75 000 pages, donc 820 numéros et une cinquantaine de hors-séries dans un centre de numérisation à Munich. Et aussi, ils nous ont permis, grâce à l'intelligence artificielle, de créer des résumés de chaque numéro pour faciliter l'exploration et la découverte par les lecteurs. C'est comme des quatrièmes de couve de livres, en fait. Mmh.
Mais à qui appartiennent aujourd'hui alors les archives ? Est-ce au Crédit du cinéma ou à Google ?
Merci de poser cette question. En fait, aujourd'hui, les archives restent la pleine et entière propriété des cahiers. Il n'y a absolument aucun sujet sur ce point.
Alors, vous disiez vouloir séduire un nouveau public. Allez-vous pour cela revoir votre ligne éditoriale, qui est très exigeante, très pointue, qui exclut de fait une grande partie de la population qui pourtant aime le cinéma?
Alors, on ne va absolument pas revoir notre ligne éditoriale. Je pense que ce qui fait la spécificité des cahiers aujourd'hui, c'est justement qu'elle n'a pas changé. Enfin, qu'elle a changé. Elle a à la fois énormément changé parce qu'elle a épousé évidemment des grands mouvements. Elle a énormément évolué. Elle s'est toujours adaptée à son époque. En fait, il faut quand même comprendre que la beauté de cette revue aussi, c'est que c'est un organisme vivant qui a toujours été à l'image de l'époque dans laquelle elle s'est conçue et qui a aussi l'empreinte des personnalités qui ont été à sa tête.
Ce qui ne change pas, c'est l'exigence, en fait.
Ce qui ne change pas, c'est l'exigence, parce que c'est aussi pour ça. C'est le contrat qu'on a avec nos lecteurs. On ne peut pas les décevoir. Par contre, ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait sur notamment la plateforme de Google Agriculture, c'est qu'ils nous ont permis d'avoir une page à nous, c'est-à-dire comme si on avait une vitrine, un petit musée des cahiers, pour nous permettre, de faire une première exposition, la première exposition digitale des cahiers en ligne, et qui permet de découvrir l'histoire des cahiers à travers cette décennie et à travers notamment leur couverture emblématique.
C'est extrêmement bien fait. Hein.
C'est, voilà, c'est vraiment. Je suis ravie que vous ayez pu le découvrir. Et aussi, on a créé, nous, l'équipe des cahiers, une trentaine de petites histoires qui sont autant de portes d'entrée dans l'histoire de la revue et qui permettent justement à un public qui est peut-être moins cinéphile et plus éloigné du cinéma de découvrir les cahiers autrement.
Les cahiers du cinéma ont eu des périodes très politisées, hein, maoïstes, gauche radicale. Comment vous vous positionnez aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est pas une revue qui a une dimension politique forte. En fait, elle épouse en tout cas les sujets du moment et elle est absolument pas hermétique au mouvement que traverse la société. Bien au contraire, on peut voir, la rédaction est extrêmement connectée à ça et le cinéma de toute façon en est un miroir. Donc en fait, à partir du moment où on critique les filles, où on les analyse, on parle.
On est engagé
du monde et on est engagé. Et c'est une revue qui reste engagée.
Merci beaucoup d'être venue sur France Info, Julie Letifu.
Merci beaucoup.
Directrice générale donc des cahiers du cinéma. Merci à toutes les deux.
Hey, salut, c'est Léo. Ça dit quoi ?
Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok.
À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir.
Au revoir, monsieur.
Voilà.
Bonne journée.
Hein ? Allô ? Il a raccroché.
Et il y a cette ambiance à l'Assemblée nationale. 5 influenceurs controversés convoqués hier mardi par la commission TikTok des députés qui enquêtent sur les effets psychologiques de la plateforme sur les mineurs.
Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ».
Je le jure.
Alors, c'était la main gauche.
Les conneries de gauche et droite, ça veut rien dire, ces machins.
Tu l'as entendu, l'autoproclamé expert en séduction et surtout masculiniste, Alex Hitchens, a fini par couper sa caméra. L'acteur porno qui inquiète le gouvernement, Adé Laurent, et l'influenceur numéro 2 de Snapchat, Nasdaq, étaient eux présents à l'Assemblée. Mais ils n'ont pas plus kiffé les questions.
Accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok ?
C'est pas beau de voir Adrien en Thaïlande, de voir Adrien qui danse, de voir Adrien heureux, bien sûr. C'est cool pour une fille de 13 ans.
Et Adrien qui dit « je vais devoir shooter avec ta femme, frérot », c'est aussi pour les enfants de 13 ans.
Ce que vous appelez de misogyne, de violent, etc., nous, ce qu'on appelle ça des dramas.
Ça rapporte plus d'argent de faire des dramas que de faire de la pédagogie.
Ah ben, mais tout. Parlement.
Plus de 3 heures d'échanges comme ça qui ont démontré l'incapacité des influenceurs à se remettre en question. Mais aussi, il faut le dire, la difficulté pour les députés à comprendre un milieu plutôt éloigné du leur et qui ne s'attendait peut-être pas, je t'ai fait écouter que des courts extraits ici, à se retrouver face à des créateurs de contenu bien préparés, au discours clair et qui savaient se défendre.
Je n'ai jamais encouragé un public mineur à consommer du contenu inadapté. La sexualité ne s'apprend pas à travers le contenu pour adultes.
TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes.
En gros, c'est pas la faute des influenceurs, mais plutôt celle de l'État, des parents et des applis. TikTok, qui est justement convoqué demain jeudi, verdict final des députés en septembre. Ils pourront, à ce moment-là, faire des propositions pour réguler la plateforme. Emmanuel Macron, lui, en a une de proposition après la mort d'une surveillante poignardée par un collégien hier à Nogent, entre Troyes et Dijon.
Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.
Après plusieurs attaques du genre à coups de couteau, le président dénonce une épidémie de violence qu'il faut donc commencer à traiter, selon lui, avec cette interdiction. Les jeunes de moins de 15 ans ne pourront plus non plus acheter de couteaux sur Internet. Alors, est-ce que ce sera vraiment efficace? Ça reste à voir. Aux États-Unis, les attaques meurtrières continuent dans des établissements scolaires toujours plus fermés sur eux-mêmes, malgré des présences policières ou même des cartables transparents. En Autriche, où les écoles sont plutôt ouvertes, un drame a également eu lieu hier. 10 personnes tuées par balle par un ancien élève dans un lycée de Graz. Une minute de silence est prévue ce mercredi, comme en France, demain midi, pour la surveillante tuée à Nogent. À te signaler dans le reste de l'actu ce mercredi 11 juin. La glace du Groenland qui a fondu 17 fois plus vite que la moyenne au mois de mai dernier, qui d'ailleurs a été le deuxième mois de mai le plus chaud de l'histoire dans le monde, selon l'observatoire de l'état de la planète Copernicus.
Est-ce qu'il fait chaud? Non, j'ai un gros glaçon sur ma tête. Canicule.
Mais il y a autre chose qui chauffe en ce moment, c'est le compte en banque de Nintendo qui est en train de battre un record avec sa toute nouvelle Switch de 3,5 millions de consoles vendues en à peine 4 jours. Meilleur démarrage de l'histoire du constructeur japonais. Et puis c'était le concert à surtout pas manquer. Billie Eilish sera encore ce soir à l'Accor Arena de Bercy, à Paris. On cherche pas, les 40 000 places pour ces deux dates ont toutes été vendues il y a déjà longtemps. Alors maintenant, surtout, attention aux arnaques.
Je viens de me faire arnaquer genre 150 euros. Donc là, je me retrouve sans place, avec un aller pour aller à Paris, sans place pour le concert de mes rêves.
Des témoignages comme ça, il y en a de plus en plus repérés sur les réseaux par ma collègue du Vrai ou Faux de France Info, Armel Balogog. Salut Armel.
Salut Léo.
Des fausses places de concert pour Billie Eilish, comme il y en a eu pour Jules au Vélodrome, comme il y en aura cet été pour les festivals. Comment on fait pour pas se faire arnaquer?
Le premier conseil, c'est de n'acheter des places que sur les sites officiels de vente des billets, les sites des festivals ou des salles de concert où tu veux aller, ou alors les sites des distributeurs autorisés comme la Fnac, Ticketmaster, France Billets, Digitic ou autres. Il faut vraiment se méfier des sites qui ont été créés il y a très peu de temps, comme le site festivalgo.fr par exemple. Lui, il n'a que quelques mois et il revend en ce moment de fausses places pour le festival Solidays.
Et ça m'arrive, moi, de racheter des billets à des personnes. Ça, je peux le faire?
Mais pas avec quelqu'un que tu connais pas, et surtout pas sur les réseaux, tu risques de perdre de l'argent. Beaucoup d'internautes racontent avoir été bloqués juste après avoir payé leur interlocuteur. Et tout ça est très organisé, hein, les arnaqueurs. Ils ont des robots qui saturent les sites officiels de vente de billets. Ils achètent le plus de places possible pour les revendre après, parfois 4 fois plus cher.
Ah ouais, donc on fait attention, merci pour les conseils Armel. Puis bah du coup, bah pour Billie Eilish, on se contente de l'album. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.
L'info d'ici.
C'est l'heure de l'info d'ici avec ici Gironde, ex-France Bleu Gironde ce matin, Claire.
Et cette vague de chaleur sur tout le pays aujourd'hui. En Gironde, Météo France prévoit jusqu'à 33 degrés à Bordeaux, 37 voire 38 à Belin-Belier. C'est dans le sud du département. Dans cette commune, les habitants sont habitués à ces pics de chaleur. C'est régulièrement ici qu'il fait le plus chaud, Stéphanie Scoc.
À Belin-Belier, on collectionne les pics de chaleur. Le 30 mai dernier, il a fait 36,2 degrés. Hier, il faisait 33 degrés à l'ombre. Et aujourd'hui, ça va encore grimper. grimper. Pour l'instant, Valérie ne s'en plaint pas.
Ça reste encore raisonnable, mais effectivement, si ça monte encore trop, ça va être difficile. C'est le début, donc ça va. Mais après, quand ça traîne un peu trop, ça devient plus fatigant, effectivement.
Mais pourquoi Belin-Bélier est-elle la commune la plus chaude de Gironde? Eh bien, c'est en raison de son sol sablonneux. Quand le soleil brille, ce sable n'absorbe pas la chaleur et le renvoie directement dans l'air. Un air qui, contrairement au littoral, n'est pas rafraîchi par le vent de l'Atlantique. Belin-Bélier étouffe et ce n'est pas près de s'arranger, prévoit Jason.
Mine de rien, on va vers des temps où il va faire de plus en plus chaud souvent, où les vagues de chaleur vont augmenter. Donc c'est important d'en parler, de ne pas que s'en réjouir et de se dire c'est super, on va aller à la plage. Ça pose quand même des questions sur notre organisation du travail, de la vie, etc.
À relativiser tout de même, nous dit Météo France, Andrea Cachard est prévisionniste.
Normalement, la normale, c'est 26 degrés. Donc là, on va dépasser de 10 degrés à la normale. On n'est pas encore dans les records pour un mois de juin. Le record, c'est 43 degrés. C'était en juin 2022, le 18 juin.
L'année des incendies en Gironde, on s'en rappelle.
Reportage Stéphanie Scoc, ici Gironde, ex-France Bleu Gironde.
Minuit 5h, France Info, l'info juste.
got my China girl. And I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
Mais bien sûr, sur les marchés, t'as les chiens, là, ils sont là, ils foutent le nez dans le cabas où t'as ta bouffe. Et puis si tu fais la moindre remarque, tu te tapes, parce que évidemment tous les maîtres de chiens pensent que leur chien est le mieux éduqué, le mieux élevé, qu'il est propre, que avec lui tout va bien, il y a pas de problème. Non, tu croises dans la rue, il est pas en laisse, il vient vers toi. Non mais t'inquiète pas, Bah ouais, mais j'ai envie de m'inquiéter en fait. Il a pas à venir le chien comme ça, j'ai pas envie. Un humain, il vient pas me coller, à me renifler le derrière ou me lécher la main.
Rarement.
Même s'il est gentil.
Certains, mais il faut quand même y faire attention.
Voilà, mais même s'il est gentil, j'ai pas dit qu'il était pas gentil. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir un contact avec un animal. Alors oui, mais la plupart, c'est que les maîtres, ils considèrent que leur chien vaut autant qu'un humain. Mmh. Et que si t'aimes pas les animaux ou t'aimes pas les chiens, c'est vrai que t'aimes pas les humains. C'est une grande phrase qu'on appelle stupide. Ouais. Là, ça m'exaspère d'entendre
t'aimes
ça.
T'aimes pas les animaux, t'aimes pas les humains.
Voilà, ça, c'est le genre de phrase absolument débile. C'est une phrase de calendrier PTT, ça. Bon, donc, je trouve ça totalement normal et que certains maires en aient marre de voir que sur les marchés ou dans certains lieux publics, on n'a pas envie de voir un maître ramasser une crotte de chien par terre avec le sac plastique. Quand ils font ça, ils doivent avoir la main toute chaude, non, en plus, non.
Moi, je préfère qu'ils le fassent avec leur sac plutôt qu'ils le fassent pas, quoi, tu vois.
Oui, évidemment, c'est mieux. Non, mais j'essaye parfois quand je les vois faire, je me mets à leur place. Mais c'est
vous détestez les animaux, en fait.
C'est quoi la sensation alors, quand tu ramasses la crotte
dans le sac? Ah, bon, il est 13h36, là, c'est bon.
Non, mais elle a l'air de vouloir le faire.
Quand t'as un enfant et que tu lui changes la couche,
ça n'a rien à voir.
Mettez des couches.
Bref,
mets une couche au chien alors.
T'acceptes de voir ramasser ses déjections, c'est comme ça.
Les enfants, il ne faut pas qu'il y ait par terre dans les marchés. Enfin, je crois pas.
Non, c'est pas donc. C'est la même sensation, quoi. C'est pas très agréable. Voilà.
Jean-Philippe, vous n'avez pas de chien?
Alors non, j'ai pas de chien, mais bon, j'ai des chats. Je rappelle quand même que le chien, c'est le deuxième animal préféré des Français. C'est souvent un compagnon pour des gens seuls. Donc voilà, il y a des gens qui sont très attachés.
Qui dorment avec plusieurs oreillers.
Qui sont très attachés aux chiens, qui sont très attachés au fait de pouvoir.
Qui le laissent à la maison.
Au fait de pouvoir justement sortir, aller en vacances avec les chiens. Moi, je pense qu'il faut sanctionner les mauvais maîtres, en fait, les mauvais propriétaires, ceux qui font des incivilités, qui ne ramassent pas, par exemple, qui ne mettent pas. Alors ça, hier, par exemple, j'étais dans mon petit village provençal. Il y avait personne. Et tout d'un coup, il y a un staff qui est arrivé. Est-ce que c'est un staff?
Il
vient en courant vers moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me sauter? En fait, il est juste passé à côté de moi. Mais j'ai eu peur, alors que je n'ai pas à avoir peur normalement.
Et le maître était là?
Il n'y avait personne. Je n'ai vu personne, si ce n'est ce chien qui est venu dans cette petite rue de village. Et en fait, il faut rappeler quand même la loi, c'est que quand vous avez ce genre de chien, donc catégorie 2, parce que les catégories 1, il n'y en a pratiquement pas, vraiment les chiens les pires, mais catégorie 2, il faut les museler en permanence, il faut avoir un permis aussi.
Là, si son maître n'était pas là, autant te dire qu'il ne sera pas muselé.
Alors voilà, donc il faut museler, il faut avoir passé 7 heures de formation, et moi je suis pour ça. Je suis pour un permis global d'adoption, c'est-à-dire qu'avant d'adopter un chien, on doit rappeler les règles, donc et d'ailleurs, il y a eu une proposition de loi, mais qui n'est jamais allée à terme, de un permis d'adoption, rappeler l'engagement aussi, parce que quand on prend un chien, si on se rend compte que finalement, on va à Saint-Malo tous les étés, mais à Saint-Malo on peut pas l'emmener parce que les plages sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait du chien? C'est là où les abandons vont arriver là début juillet. Les gens qui se sont pas rendus compte qu'en effet, on pouvait
pas
aller.
À Saint-Malo.
Et du coup ils n'y vont pas, mais ils abandonnent le chien. Donc il faut un permis pour que les gens comprennent. Il faut aussi un dressage. Je pense que pour certaines races comme les Malinois qui sont très tendances en ce moment, il faut imposer des heures de dressage parce que un chien non dressé, voilà.
Mais c'est pas ça qui va te faire ramasser la crotte de ton
alors
chien.
Ça, non. Alors, voilà. Non, mais il y a les deux. Il y a l'hygiène, donc ramasser les crottes. Et aussi dresser les chiens pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est un pays où on n'arrive plus à vivre ensemble. On ne peut plus vivre avec ceux qui aiment les chiens, on ne peut plus vivre assez. En fait, il y a un moment, il faut que chacun puisse cohabiter, vivre ensemble. Il faut respecter les gens et la vie des gens, la vie des autres, qu'ils aiment les chiens ou pas.
Émilien est avec nous, il nous appelle de Plescop dans le Morbihan. Il est mécanicien vélo. Bonjour Émilien.
Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Mais oui, et vous Émilien, il fait beau en Bretagne?
Très bien, il fait très beau. Et
mais évidemment,
là,
bien sûr.
On est bien.
Il fait au moins 22, non?
Non,
je rigole.
30 degrés, t'as vu,
moi. Oh là là, vous me faites rêver là, Émilien. Émilien, vous avez un gros chien, vous, c'est ça?
Alors gros, je ne qualifierais pas de gros, je verrais plus comme un moyen.
Mais il fait combien de kilos?
Il fait 21,5 kg.
Bah, c'est quand même un gros chien, non?
Qui faisait 60 kilos juste avant, donc voilà.
Et c'est quoi comme chien?
Alors, en particulier, c'est un berger créole. C'est un chien qui vient de Guadeloupe et est repris dans les rues en Guadeloupe. En fait, c'est des chiens qui sont destinés en général à la pêche aux requins. Ah. Et donc, ils sont renvoyés en métropole pour être adoptés par des associations, en fait.
Regardez à quoi ça ressemble.
fait rire les oiseaux, je crois.
Faut regarder, c'est un berger créole bringé, pour voir un peu plus la...
Pour voir exactement à quoi ressemble le chien. Mais Émilien, est-ce que vous, ça vous gênerait qu'on interdise effectivement, qu'on vous interdise d'aller sur la plage avec votre chien ou encore sur un marché? Est-ce que ça vous gênerait ou est-ce que vous trouveriez ça normal?
Alors, il y a plusieurs choses à voir. Moi, pour moi, la plage, étant vivant, pas très loin de l'océan, ça me gêne un petit peu. On aime bien aller avec nos chiens hors saison, même en saison, nos chiens un petit peu pour qu'ils puissent se défouler. Mmh. Et pour moi, c'est que le problème, c'est surtout l'humain, parce que c'est l'humain qui laisse ses mégots, ses déchets, que ce soit dans la nature, sur la plage.
Mmh,
le chien, après, lui, il n'a pas conscience de faire ses besoins sur le lieu public.
Oui, il n'a pas conscience de gêner.
Moi, c'est ça. C'est l'humain qui doit être responsable. C'est lui qui ramasse les déchets.
Alors, Émilien, on vous entend super mal. On va vous rappeler parce que là, la liaison, elle est très mauvaise. On va prendre Corinne en ligne qui nous appelle d'Agde dans l'Hérault et qui est assistante sociale. Bonjour, Corinne.
Bonjour, Estelle. Bonjour à tout le monde. Je bondis de nouveau. J'avais déjà. Voilà. J'étais déjà intervenue il y a deux ou trois mois par rapport aux chiens.
Oui.
Je continue et je persiste à dire tout est une question de bon sens. Ouais. Moi-même, donc j'ai un petit chien, un coton de Tuléar, il n'y a pas de souci, c'est pas un chien féroce, mais j'en vois tellement. C'est comme les enfants, tout est question d'apprentissage, de respect des autres.
Oui, mais on ne peut pas interdire une plage à un enfant, vous voyez bien.
Oui, oui, non mais évidemment, mais moi je suis allée me baigner ce matin, tu crois que j'ai amené mon chien? Non, pas du tout. Le chien il reste à la maison, je vais me baigner, j'en emmerde personne avec mon chien, voilà. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de chiens en liberté, des gros chiens, qui ne sont pas attachés, certains n'ont même pas de collier.
Exactement.
Et les gens se permettent d'aller sur les plages, au restaurant, dans les bars, en terrasse et tout, mais stop quoi. Mon chien, il a sa vie. On a notre vie tous les deux quand on peut, voilà, parce que je respecte aussi les vacanciers qui sont là, je respecte tout le monde, voilà, mais tout, encore une fois, c'est juste une question de bon sens.
Mais bien sûr, voilà. Mais vous avez raison, Corinne, évidemment.
Personne ne m'a jamais interdit de venir. Ça m'arrive d'aller en terrasse boire un verre avec mon chien ou d'aller au restaurant parce que les gens le connaissent et savent qu'il ne va pas bouger d'une oreille. Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens. Et
alors, moi, vous voyez, Corinne, même si c'est un petit chien, je vous avoue que moi, un chien au restaurant, ça me gêne. En fait, c'est idiot, mais
pour
des mesures d'hygiène, et même si votre chien est.
Ça m'arrive d'y aller, je vous le dis, en terrasse, hein, voilà.
Oui, voilà.
En terrasse,
d'accord.
On est dehors, il est attaché, il a son bol d'eau, il bouge pas d'une oreille, voilà. Mais la plupart du temps, surtout l'été, je l'amène pas avec moi.
J'entends. Mais c'est vrai que quand vous voyez que certains restaurants aujourd'hui sont interdits aux enfants, mais autorisés aux chiens, ça pose quand même question, Corinne, vous voyez.
Absolument, je suis entièrement d'accord. Alors là, mais dans quel monde on vit, quoi? Enfin, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus, nos kids, machin, nos dogs, nos kids.
C'est vrai.
Ben voilà, nos humans bientôt peut-être, je ne sais pas.
Oui, alors on n'en est pas encore là, mais effectivement, ça pourra peut-être arriver. Merci Corinne, en tout cas, pour tout ce bon sens. Merci.
À bientôt,
Corinne. Bah, dès qu'on fait un sujet chien, on appelle Corinne. Corinne d'Agde, effectivement, mais qui a plein de bon sens sur cette question. Après, sur le restaurant, effectivement, on pourrait peut-être quand même interdire certains endroits aux chiens. Mais même aujourd'hui, quand tu prends le train, maintenant, il y a de plus en plus de chiens comme ça qui sont dans les couloirs. T'es obligé d'enjamber.
Il y a des chiens dans le train.
Ah oui, les gens voyagent avec leur chien. Ouais.
Mais oui, et ils sont censés, si tu veux, ne pas te gêner. Si, ça gêne.
Il y a des règles précises. Oui, dans l'avion, il y en a pas.
Il y a des règles. T'es là avec tes deux cafés dans le chien et dans le wagon, et t'arrives et tu dois enjamber quand même un gros chien.
Honnêtement, vous êtes vraiment souvent dérangé dans votre quotidien par des chiens.
Bah oui, moi souvent,
très souvent.
Parce que j'en ai peur. Donc
vous êtes trop dur en fait. Par exemple, voilà, même sur la plage, ça dépend aussi des horaires. Le bon sens dont parle Corinne, elle a raison. Par exemple, voilà, vous avez déjà vu un chien, mais un petit chien. Pour moi, un gros chien dangereux, de toute façon, il doit toujours être en laisse et muselé. Donc, parce que quoi qu'il arrive, même et si
moi,
c'est
le
en
gros
montagne,
chien dangereux, je ne veux pas le
et
voir,
que tu
en
le crois, il y a personne, mais toi, t'as la malchance de le croiser, t'as peur. Mais imagine, tu sais pas, t'as un petit Jack Russell là, il est tout seul, il y a personne sur la plage, et tu t'enlèves la laisse et tu le laisses courir.
Ça, c'est du bon
ça dérange
sens.
Qui tout le monde est
mais
content.
Mais moi, un gros chien, je suis désolée. Mais moi, ça me gêne.
Bah je connais une commune où il m'arrive d'aller en vacances, il y a une plage qui est que pour les chiens.
Mais c'est ça.
Ouais, mais elle veut pas non plus ça.
Bah non, je veux pas. Bah pourquoi il y aurait une plage qui est que pour les chiens.
Non, alors c'est pas. Je l'ai mal expliqué. C'est toutes les autres plages, on n'a pas le droit d'y venir avec un chien. Celle-là, on a le droit d'y venir avec un chien. Donc si toi, tu y vas, en connaissance de cause, tu sais que tu peux avoir à côté de toi des gens qui ont emmené leur clébard à la plage. Voilà. Donc si toi, ça te gêne, tu sais que tu vas pas à cet endroit-là.
Oui, c'est comme les plages.
Bon, la mairie a fait le mauvais choix, parce que c'est une des plus belles, donc c'est un peu chiant.
Voilà, ça c'est un peu dommage. Et puis pour les
donc,
riverains.
Selon les horaires, quand je sais qu'il y en a un peu moins des clébards, bon, je peux
faire. Et pour les riverains, c'est quand même, quand t'es au premier étage, c'est quand même des plages où il y a énormément de bruit, parce qu'il y a plein de chiens dessus. Donc c'est quand même des nuisances. Bon, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estan Midi. Doit-on interdire les chiens dans l'espace public, Rémi?
La réponse, elle est claire, c'est non pour 70% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC. Demain, c'est vendredi 13.
Et comme tous les vendredis 13 sur RMC, vous avez de fortes chances de gagner de l'argent. Toute la journée, des tickets à gratter, jusqu'à 13 000 euros à gagner.
Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant. Envoyez chance par SMS au 732-16. Chance au 732-16.
Demain, provoquez la chance. Gagnez jusqu'à 13 000 euros sur RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
Deux heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Le coup de rabot du jour, et c'est celui annoncé sur les niches fiscales qui concerne l'aide à domicile, ménage, garde d'enfants, soutien scolaire, jardinage. Ça coûte à l'État près de 7 milliards par an, mais a priori, Rémi, la bamboche, c'est terminé. À quoi faut-il s'attendre sur ces niches fiscales?
Un coup de rabot, une baisse du nombre de services qui pourront continuer à ouvrir droit à cet avantage fiscal. L'État cherche, on le sait, à faire des économies. Or, cours d'informatique, soutien scolaire, jardinage ou encore ménage, c'est en tout plus de 3 millions de Français qui emploient un salarié à domicile et ont droit donc à 50% de crédit d'impôt avec un coût conséquent pour l'État, plus de 6 milliards 400 millions d'euros en 2024. Si vous bénéficiez de l'avantage pour la garde d'enfants, normalement ça devrait continuer. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. Même chose pour l'accompagnement des personnes âgées. Pour le reste, en revanche, rien n'est encore tranché, mais certaines pistes se décident. C'est notamment le cas pour les services de ménage, qui représentent une dépense fiscale importante. Mais ce serait une très mauvaise idée, ça c'est ce que dit Brice Alzon. C'est le président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Il était invité ce matin d'RMC. Selon lui, si les crédits d'impôt sont rabotés, le travail non déclaré, le travail au noir, augmentera de 10% et entraînera une perte d'emploi de 140 000 postes.
Alors, Alors, ménage, jardinage, garde d'enfants, faut-il supprimer les niches fiscales d'aide à domicile? Jean-Philippe Doux, déjà, est-ce que vous en profitez?
Mais alors, j'en ai profité. Là, j'en profite moins parce que, bon, j'ai plus de femme de ménage. Mais oui, je trouve. Enfin, c'est ce que disait Rémi.
Pourquoi ça coûte trop cher?
Pour terminer, non, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve que c'est bien qu'on puisse les déclarer. Parce que déjà, un, ça leur donne une protection.
Exactement.
Ça les fait cotiser aussi pour la retraite. On parle, par exemple, pour le ménage, surtout de femmes.
97% de femmes.
Voilà, des femmes qui, en fin de carrière, qui sont des carrières au black, et ben en fait, n'ont plus de protection, n'ont pas de retraite. Donc, je trouve ça bien. Évidemment, ça fera marcher le travail au noir. Et je trouve que vraiment, il y a une question de respect, en fait. Il faut respecter ces personnes-là. Il y a un vrai besoin. Alors, peut-être réduire les 50%, peut-être le faire moins, peut-être l'assujettir à certaines ressources. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent payent beaucoup d'impôts et donc ont intérêt aussi à embaucher beaucoup ces personnes-là. Donc en fait, il y a une économie qui s'est mise et puis n'oublions pas que si on déclare quelqu'un, cette personne entraîne des cotisations.
Bah,
et nous-mêmes, en tant que patron, on a des cotisations patronales, des cotisations salariales. Donc finalement, tout ne part pas dans la nature comme voudrait le faire croire le gouvernement, mais ça